Voici Jean-Luc Mongrain.
Lors d'une chirurgie, on n'aime jamais ça être mis sur le billard, mais qu'on appelle évidemment une table d'opération. Mais l'anesthésie aussi, ça inquiète souvent. Puis il arrive que des gens ont de la difficulté à subir l'anesthésie. En tout cas, ils ont des séquelles à leur réveil. C'est compliqué, etc., etc. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai toujours entendu parler de cela. Et voilà que des médecins de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont optent pour des anesthésies locales plutôt que générales dans les cas de mastectomie. Et ça aussi, c'est une opération stressante. C'est très envahissant. On sait ce que c'est dans nos sociétés, le sein. Et pour une dame, évidemment, c'est très, 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 très envahissant. Et on est souvent ici devant des questions de cancer ou surplus. Alors, on ne peut pas passer à côté de ce type de chirurgie lorsque c'est le cas. Alors, le docteur Ariane Cléroux est anesthésiologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et va nous parler de cette décision et quels sont les avantages d'une anesthésie locale. Bonjour, docteur Cléroux.
Bonjour, bon après-midi.
Merci, vous aussi. Écoutez, toutes les mastectomies auparavant étaient faites sous anesthésie générale. Je me trompe ou pas?
Non, la plupart des cas, effectivement, c'était fait sous anesthésie générale. On se gardait quand même certaines patientes qui étaient plus précaires, là, ou qui avaient des conditions qui faisaient en sorte que l'anesthésie générale pouvait engendrer des complications ou des risques de complications par la suite. C'est des patientes à qui on faisait des blocs, là. On faisait en fait de l'anesthésie régionale, qu'on appelle. Mm-hmm. Donc, on gèle le sein, l'aisselle, si nécessaire. Puis, on donne une sédation aussi pendant la chirurgie pour pas que la patiente ait trop connaissance de ce qui se passe pour qu'elle soit confortable. Puis ça nous permettait d'éviter des complications, puis des hospitalisations prolongées, entre autres, chez des patientes qui avaient des conditions qui les prédisposaient à des complications par la suite.
Ce serait comme quoi? C'est quoi des prédispositions dans ce...
Entre autres, ce qu'on a eu, la première qu'on a eue, c'est une patiente qui avait une atteinte pulmonaire qu'on appelle l'hypertension pulmonaire, mm-hmm. qui est plutôt difficile à gérer avec l'anesthésie générale.
Absolument.
Puis en plus, cette patiente-là, la première, en fait, là, avec laquelle on a eu à faire cette technique-là, en plus, cette patiente-là venait pour une opération qui était à tout fin palliative, là. C'était pas à visée curative. Donc, on se retrouvait un peu dans un dilemme à dire, on va-tu vraiment mettre la vie de cette patiente-là en danger pour quelque chose qui est vraiment palliatif?
D'accord.
Donc, c'est la première fois que ça nous a vraiment confrontés à cette situation-là.
Docteur Cléroux, quand on arrive à prendre la décision de modifier un protocole d'intervention, comment ça se décide? Est-ce qu'on se dit, ben voyons, ça marcherait pareil, pourquoi qu'on ne fait pas ça, les avantages, les inconvénients? Comment ce protocole s'établit? Est-ce qu'il se fait en collaboration ou est-ce que c'est une initiative un jour, puis on dit, bon, on l'essaye? Comment ça marche?
Bien, en fait, avec la COVID, ça a été plus facile de faire des innovations puis de changer des protocoles comme ça parce que tout changeait très rapidement puis on devait revoir nos façons de faire. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand on induit une anesthésie générale, nécessairement, on a des procédures qui vont générer des aérosols, peu importe ce qu'on fait pour l'anesthésie générale, ce qui fait que ça mettait tout le monde à risque dans la salle d'opération parce qu'on se rapporte là à mars 2020 quand on n'avait pas de masque, les patients n'étaient pas testés. C'était l'époque là, où les personnes de la santé avaient plutôt peur puis redoutaient ce qui allait arriver. Mm-hmm. Donc, on ne savait pas à quoi on avait affaire. Donc, les protocoles pour l'anesthésie générale ont été changés, ce qui faisait que des durées d'anesthésie étaient nettement allongées. Puis en fait, moi, je me suis retrouvée très simplement là, dans l'ascenseur avec le chirurgien le matin à se dire on n'arrivera jamais à faire toutes nos patientes aujourd'hui et pour les mois à venir. Donc ça veut dire des patientes qui attendent depuis des semaines, des mois ces chirurgies-là avec beaucoup d'espoir, puis qui se retrouvent annulées avec des délais. C'est inacceptable. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que moi, j'avais les capacités de faire cette technique-là. Je l'avais faite déjà pour des patientes un peu plus précaires. Donc, ce que j'ai dit, on va le proposer aux patientes. On va voir si elles acceptent parce que c'est quand même 3 à 5 injections dans le dos. C'est pas ce qui est le plus confortable. Mais à notre grande surprise, la majorité des patientes ont accepté. C'est une clientèle un peu à part, là, comme vous disiez, les patientes de mastectomie de cancer du sein. C'est des patientes qui prennent en charge leur santé, qui prennent des décisions, qui sont impliquées. Puis la plupart, il y en a beaucoup, en fait, qui préfèrent ne pas être endormies. Donc, ça faisait l'affaire de tout le monde à ce moment-là. Puis les patientes ont trouvé énormément de bénéfices justement parce que ça répondait à leur demande de ne pas être endormie, d'avoir moins de nausées, vomissements, de quitter l'hôpital beaucoup plus rapidement aussi. Ils quittent l'hôpital plus qu'une heure plus tôt que celles qui sont endormies.
Bien que,
les chirurgiens sont très...
Oui,
allez-y, pardon.
Non, excusez-moi, c'est
vous, les chirurgiens sont contents parce qu'on n'annule pas leurs patientes sont opérées.
Voilà.
Nous, du côté anesthésique, ça nous permet d'expérimenter une nouvelle façon de faire puis de l'enseigner. Puis les inhalothérapeutes, les infirmières, les préposés, ben pour eux, ils voient que c'est une nouvelle façon de faire qui les protège d'une certaine façon parce qu'on n'a pas cette émission d'aérosol-là. Donc, ça limitait leur exposition à la COVID à ce moment-là.
C'est des circonstances, donc, qui vous ont poussé à innover et à pousser cette technique qui était déjà existante, mais dans des cas d'exception, à devenir
exact.
Offerte ouvertement à des patientes. Quand on parle d'anesthésie de façon générale, justement, les gens craignent ça beaucoup. Je me fais opérer, mais l'anesthésie, j'ai peur de ne pas me réveiller. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est psychologique parce qu'on perd le contrôle, parce qu'on n'est pas conscient de ce qui se produit, mais en même temps, c'est paradoxal, on ne veut pas trop le savoir ce que vous allez faire?
Bien, il y a peut-être un peu de tout ça, là, mais il y a beaucoup. C'est pas une spécialité qui est très connue, l'anesthésie non plus. Tu sais, quand vous faites opérer, vous allez avoir plusieurs contacts avec votre chirurgien, plusieurs autres médecins que vous allez connaître, en qui vous allez avoir confiance. Puis l'anesthésiste, souvent, on le rencontre dans un moment très, très stressant. Puis c'est plutôt méconnu. Là, on ne sait pas ce qui se passe après. On sait ce qu'on voit dans les films, en fait. Là. Fait qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Mais nous, ce qu'on fait, on est là tout le long de la chirurgie. On travaille très, 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 très fort pendant que les patients dorment. Passez-moi un papier de ce qu'on a fait en fin de semaine, d'ailleurs. Là,
c'est, ah ouais?
On a des patients très malades. On est là, on transfuse. On a la vie des gens entre les mains, là, nous et les chirurgiens. Donc, effectivement, c'est une peur qui... quant à moi, ne devrait pas avoir lieu, là, parce qu'on est vraiment là à toutes les secondes à s'occuper de nos patients tout au long de l'anesthésie puis de la chirurgie.
J'ai eu l'occasion, au fil des années, d'être dans les blocs opératoires pour voir des chirurgies valves ou encore pontage. Et effectivement, la dernière personne que l'on voit quand on est éveillé, c'est l'anesthésiste. Et c'est la première qu'on voit à notre réveil. Ils sont là tout le temps. Alors... on pense aux chirurgiens, on pense à tous ces médecins que l'on consulte, mais celui qui véritablement accompagne le patient du début de la chirurgie jusqu'à son réveil à la salle de réveil, c'est l'anesthésiste parce que les signes vitaux, c'est vous qui les mesurez et c'est ça votre travail.
Oui, effectivement. Puis moi, comme on disait, moi, ma spécialité, c'est en anesthésie régionale. Donc moi, la plupart de mes patients, ils dorment pas, ils sont réveillés. Fait que... c'est un petit peu une façon différente de voir les choses. Puis surtout avec tous ces cas-là de mastectomie-là, moi, ça m'a rapproché aussi de cette clientèle-là, des femmes qui venaient pour des cancers du sein. Puis je dois dire aussi que suite à cette période de COVID où la condition des femmes en a pris pour son rhume, ben c'était quand même une belle chose de voir que moi, en tant que femme, en fraîchement de retour de congé de maternité, en plus d'être capable d'innover de cette façon-là pour accompagner des femmes, encore une fois, ben, je trouve que c'est une belle façon de boucler la boucle aussi.
Faites-moi le plaisir de me dire que c'est pas parce qu'on est localement sous anesthésie, on voit pas plus la chirurgie. Les femmes voient pas l'intervention, on voit pas le scalpel.
Absolument pas. Ça aussi, on se le fait demander souvent.
Oui, c'est ça.
Après la peur de l'anesthésie, là, ça aussi, on se le fait demander. Les gens, il y en a qui veulent voir, il y en a qui veulent pas voir. On se fait poser cette question-là très souvent.
Ouais.
Mais non, elles voient pas du tout. Puis on s'assure de leur donner une sédation. Ça fait qu'elles ont un sommeil qui est très confortable, très
mitigé,
agréable,
ouais.
Fait qu'on rêve. Puis ça donne vraiment une expérience qui est agréable parce que ça aussi, il faut que ça rentre en bout de compte. Il ne faut que ce soit une expérience traumatisante.
Exact.
Puis la plupart des femmes sont très contentes. J'ai eu une patiente qui était psychanalyste. C'est plutôt rare qu'on rencontre ces gens-là, là, surtout moi dans le cadre de mon travail. Mes patientes sont très rarement psychanalystes. Puis qui avait eu une mauvaise expérience avec l'anesthésie par la suite, mais qui comprenait bien les avantages de cette technique-là. Puis qui a fini par accepter. Puis ensuite, là, quand tout ça a été fini, en l'amenant à la salle de réveil, elle m'a regardée et elle m'a dit « Est-ce que je peux vous adopter? » Je pense que ça résume bien la situation. Puis
attention, être adoptée par un psychanalyste, là, c'est, c'est spécial.
Mais ça montre bien tous les avantages. Oui. Puis, tu sais, venant même d'une patiente qui avait une mauvaise expérience, d'être capable de tourner ça complètement à l'envers pour rendre ça en quelque chose de très positif, ça montre bien ce que ça a fait pour ces patientes-là.
Docteur Ariane Cliroux, anesthésiologiste, merci de l'entrevue, mais aussi, au nom de ces femmes, vous avez fait avancer la science dans un contexte très particulier et assuré un meilleur confort pour ces dames qui déjà ont à vivre une épreuve très difficile. Merci beaucoup. Chapeau.
Merci à vous.
Merci. Au revoir. On s'arrête pour une pause.